Le journal George Fox 1685-1690 dernière année à Londres et des cépages deux après cela, je retournai promptement à Londres et j'y continuai pendant un mois au service du Seigneur, étant chaque jour exercé soit dans des réunions publiques, soit dans des services plus particuliers concernant l'Église du Christ, comme visiter ceux qui étaient malades ou affligés, écrire des livres ou des papiers pour la propagation de la vérité, ou réfuter l'erreur. Comme c'était un temps de liberté générale, les papistes se montrèrent plus ouverts dans leur culte qu'auparavant. Et comme beaucoup de gens instables allaient les voir, on parlait beaucoup de leurs prières aux saints, avec des chapelets, etc. En réponse à cela, j'écrivis un court texte au sujet de la prière, comme suit. Christ Jésus, lorsqu'il enseigna à ses disciples à prier, leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. » Le Christ ne dit pas qu'ils doivent prier Marie, la mère du Christ, ni ne dit-il qu'ils doivent prier des anges ou des saints qui étaient morts. Le Christ ne leur enseigna pas à prier les morts ni pour les morts. Ni le Christ ni ses apôtres n'enseignèrent aux croyants à prier avec un chapelet, ni à chanter avec des orgues extérieurs, mais l'apôtre dit qu'il chanterait et prierait dans l'esprit, car l'esprit lui-même intercède, et le Seigneur qui sonde le cœur connaît la pensée de l'esprit. Consulter les morts était interdit par la loi de Dieu, il devait consulter le Seigneur. Il a donné le Christ dans la Nouvelle Alliance, au jour de son évangile, comme conseiller et guide pour tous les croyants dans sa lumière. Les hommes ne doivent pas courir vers les morts pour les vivants, car la loi et le témoignage de Dieu l'interdisent. Ces Juifs qui refusèrent les eaux paisibles de Chiloé furent submergés par les flots et les eaux des Assyriens et des Babyloniens, qui les emportèrent en captivité. Et ceux qui refusent les eaux du Christ sont débordés par le déluge du monde, qui gît dans la méchanceté. Ceux qui demandaient conseil à des idoles de bois et à des pierres étaient dans l'esprit d'erreur et de prostitution. Ils s'étaient prostitués loin de Dieu. Osée 4:12. Et ceux qui s'attachèrent à Baal-Peor et mangèrent des sacrifices offerts aux morts irritèrent le Seigneur et attirèrent sur eux son déplaisir. Psa 107-28-29. Vous pouvez donc voir ici que les sacrifices aux morts étaient interdits. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et ils n'ont plus de récompense, car leur souvenir est oublié. Ecclésiaste 9-5. Malheur aux enfants rebelles, dit le Seigneur, qui prennent des conseils, mais non de moi, et qui se couvrent d'une couverture, mais non de mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Isa 31. George Fox, après être resté environ un mois à Londres, je quittai de nouveau la ville. À cause des nombreuses épreuves que j'avais endurées en prison, et d'autres souffrances pour la vérité, mon corps était devenu si infirme et faible que je ne pouvais supporter longtemps l'air confiné de la ville. J'étais donc heureux d'aller un peu à la campagne, où je pourrais bénéficier de l'air frais. À ce moment-là, j'allais avec mon gendre, William Mead, dans sa maison de campagne appelée Gooses dans l'Essex, où je restais environ 2 semaines, et parmi d'autres services que j'y rendis, j'écrivis le texte suivant. Une distinction entre la véritable offrande et le véritable sacrifice et les faux dans l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Le Seigneur a dit, « Celui qui sacrifie à un Dieu quelconque, autre que le Seigneur seul, sera entièrement détruit. » Ex 22-20. Ainsi, aucun Dieu ne doit être écouté ni recevoir de sacrifice, sinon le Seigneur Dieu. C'est la mort que de sacrifier un autre Dieu que le Seigneur. Le Seigneur a dit aussi, « Tu n'offriras pas le sang de mon sacrifice avec du pain levé. » Ex 23-18. Ainsi, ce levain aigre et lourd ne doit pas être offert avec le sacrifice du Seigneur. Encore, le Seigneur a dit, « Tu ne bâtiras point d'autel de pierre taillée, car si tu y lèves ton outil, tu l'as souillé. » Ex 20-25. Prenez donc garde de souiller l'autel avec vos propres outils, vous qui professez offrir le sacrifice spirituel. Jonas dit qu'il sacrifierait au Seigneur avec la voie d'action de grâce lorsqu'il était dans le ventre du poisson, et là, il pria le Seigneur, Jonas 2. Car Jonas, dans le ventre de la baleine, n'avait ni agneau, ni bélier, ni sacrifice extérieur à offrir. Le Seigneur interdit à son peuple de sacrifier avec des prostituées. Osée 4:14. Et le Seigneur interdit à son peuple d'offrir en sacrifice un animal aveugle, boiteux, malade ou difforme, ou qui ait quelques défauts, comme en Malin 8 et en bien d'autres endroits. Ainsi, ceux qui offrent un sacrifice spirituel ne doivent pas offrir à Dieu un sacrifice aveugle, boiteux, défectueux ou difforme. Le scribe dit au Christ, « Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimez son prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Marc 12:33. Et lorsque Jésus vit qu'il avait répondu avec sagesse, il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Verset 34. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même valait mieux que les holocaustes et les sacrifices au temps de la loi. Par conséquent, toutes les offrandes et tous les sacrifices au temps de l'Évangile, s'il n'y a pas l'amour de Dieu et du prochain comme de soi-même, ne servent de rien. David dit qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Psa 107-22. Tels sont les sacrifices que le Seigneur exige de son peuple, plus que des sacrifices extérieurs. David dit, « Que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme le sacrifice du soir. » Psa 141:2. Ici, David considère que sa prière au Seigneur et l'élévation de ses mains vers lui sont acceptées par le Seigneur autant que l'encens extérieur et le sacrifice extérieur du soir. David dit encore, « Les sacrifices agréables à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le méprises pas. » Psa 51:17. Voir aussi Isa 57:15 et Isa 66:2. Ce sont là les sacrifices que David dit que Dieu accepterait et ne mépriserait pas. Ils sont plus grands qu'un esprit non brisé et un cœur non contrit, accompagnés d'offrandes et de sacrifices extérieurs. Les adversaires des Juifs auraient voulu se joindre à eux pour la construction du temple, disant « Bâtissons avec vous, car nous cherchons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices. » Mais les Juifs les refusèrent et dirent « Vous n'avez rien à faire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu ?» Esdras 4:1-3. Vous pouvez voir ici que le peuple de Dieu refusa de bâtir avec eux et refusa leur sacrifice. Salomon dit « Le sacrifice des méchants est en abomination au Seigneur. » Pro 15:8. Voir aussi Isa 1:11-20 et Isa 66:3. Salomon dit aussi « Mieux vaut un morceau de pain sec, avec la tranquillité, qu'une maison pleine de viande sacrifiée avec des crêles. » Pro 17:1. Que tous considèrent maintenant à quoi sert une maison pleine de sacrifices avec des crêles, quand un morceau sec et la tranquillité valent mieux. Considérez tous, si vous vivez dans la méchanceté, votre sacrifice est en abomination au Seigneur. De plus, Salomon, parlant du sacrifice des insensés, dit « Ils ne considèrent pas qu'ils font le mal. » Ex 5:1. Les insensés sont ceux qui ne marchent pas dans l'Esprit de Dieu, ou qui commencent dans l'Esprit et finissent dans la chair, comme les Galates insensés, car l'Esprit de Dieu est l'Esprit de sagesse et d'intelligence, et il ne peut s'associer au sacrifice des morts, ni à ceux des insensés, ni à ceux des méchants dont le sacrifice est abominable. Eux qui attristent et éteignent l'Esprit de Dieu, par lequel les spirituels et les justes offrent des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'il était le « ministre de Jésus-Christ auprès des gentils », administrant l'Évangile de Dieu, afin que l'offrande des gentils fût agréable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit. Rome 15-16. Vous pouvez donc voir que toutes les offrandes et tous les sacrifices agréables à Dieu doivent être sanctifiés par le Saint-Esprit. Le même apôtre dit aux Corinthiens, « Vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 1 Cor 6-20. Et aux Romains, il dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Rome 12:1, c'est le devoir de tous les vrais chrétiens. Pierre aussi dit, dans son épître générale à l'Église du Christ, « Vous-mêmes aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 1 Pie 2:5. Ainsi, tout homme et toute femme doivent venir à l'Esprit de Dieu dans leur propre cœur, s'ils veulent offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car comme Christ l'a dit, « Tout sacrifice sera salé de sel. » Marc 9:49. Et dans l'Ancien Testament, vous pouvez voir que toutes leurs offrandes extérieures devaient être assaisonnées de sel. Lévitique 2:13. Cela était un type et une figure du Christ, qui s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, en parfum de bonne odeur. Éphésiens 5:2. C'est pourquoi tout son peuple doit être baptisé du Saint-Esprit et de feu, afin qu'il soit salé de feu, et que tout sacrifice soit salé de sel, avec l'Esprit de grâce qui est répandu sur tous, afin qu'ils puissent offrir ce sacrifice spirituel, agréable à Dieu par Jésus-Christ. Samuel dit au roi Saül, « Le Seigneur prend-il autant de plaisir au holocauste et au sacrifice qu'à l'obéissance à la voix du Seigneur ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'attention vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Sam 15-22. Vous pouvez donc voir que toutes les offrandes et tous les sacrifices ne sont rien, s'il n'y a pas une écoute du Seigneur dans son esprit et une obéissance à sa voix. Le Christ dit aux Juifs, qui sacrifiaient extérieurement, qu'ils voulaient la miséricorde et non le sacrifice, et il leur dit, « Allez apprendre ce que cela signifie. » Matt 9:13. George Fox Gooses, le 28 jour du 2 mois, 1687 au début du 3e mois, « Je retournai à Londres et j'y demeurai jusqu'après la réunion annuelle, qui commença le 16e jour et fut très nombreuse, car les amis avaient davantage de liberté pour venir des campagnes, en raison de la tolérance générale et de la liberté désormais accordée. La réunion dura plusieurs jours, et à la clôture, je me sentis poussé à écrire les lignes suivantes, à distribuer parmi les amis partout, comme une parole de conseil et d'avertissement, afin qu'ils marchent avec circonspection en ce temps de liberté. Chers amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, par son bras éternel et sa puissance, vous ayant soutenu dans toutes vos souffrances, les grandes saisies de biens personnels et les emprisonnements pénibles, uniquement pour avoir servi et adoré le Dieu vivant qui vous a fait, vous qui avez renoncé à femme, enfants et biens, et enduré la saisie de ceux-ci et la prison pour l'amour de sa vérité et de son nom. Le Seigneur, par sa puissance et sa miséricorde infinie, a bien voulu ouvrir le cœur du roi à votre égard, par quoi vous avez été délivrés des prisons, et ceux qui saisissent vos biens personnels ont été arrêtés, de sorte qu'à présent vous pouvez exercer vos métiers, confesser le Christ Jésus et l'appeler Seigneur par le Saint-Esprit dans vos assemblées, sans être jetés en prison ni voir vos biens saisis. Chers frères, une grande préoccupation m'est imposée par le Seigneur de vous écrire, afin que nul n'abuse de cette liberté ni des miséricordes du Seigneur, mais qu'il les estime, car il y a un grand danger, en temps de liberté, de devenir orgueilleuse et de tomber dans l'aisance, le relâchement et une fausse liberté. Et maintenant, puisque vous n'avez plus les persécuteurs extérieurs à combattre dans les souffrances, usez des armes spirituelles pour tenir en bas ce qui ne veut pas être soumis au Christ, afin que lui, le Saint, règne dans vos cœurs. Que vos vies, votre conduite et vos paroles prêchent la justice et la vérité. Que vous montriez tous de bons exemples de vraie croyance en Christ, en vertu et en sainteté, répondant à ce qui peut être connu de Dieu en tous les hommes, afin qu'ils voient que vous êtes les fils et les filles de Dieu. Tenez ferme dans cette liberté juste et sainte en Christ, le juste et le saint, qui vous a rendu libre, au-dessus du relâchement ou du mensonge, fuyant les occasions de vaines disputes et de questions folles d'hommes à l'esprit corrompu, car le serpent fut le premier à questionner Ève, et il l'attira, elle et Adam, hors de la vérité. Ainsi comme vous avez reçu le Christ, vivez et marchez en lui, lui qui brise la tête du serpent, lui qui est votre refuge sûr, en qui vous avez élection, réconciliation et paix avec Dieu. Vivez donc, dans la paix que vous avez de Christ, qui n'est pas de ce monde, soyez en paix les uns avec les autres, et recherchez la paix de tous les hommes en Christ Jésus, car heureux sont ceux qui procurent la paix. Travaillez à exercer une bonne conscience envers Dieu, en lui obéissant dans ce qu'il exige, et en faisant à tous les hommes ce qui est juste et honnête, dans votre conduite et vos paroles, ne donnant aucun scandale aux Juifs ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Ainsi vous pourrez être comme une ville située sur la colline de Sion de Dieu, qui ne peut être cachée, et être des lumières pour le monde obscur, afin qu'il voie vos bons fruits et glorifie votre Père qui est aux cieux. Car il est glorifié lorsque vous portez de bons fruits, tandis que vous demeurez en Christ la vigne, en ce jour de vie, de puissance et de lumière qui brille sur tous. Que donc tous ceux qui croient en la lumière marchent dans la lumière, comme des enfants de la lumière et du jour éternel du Christ, afin que, dans la lumière, vous ayez communion avec le Père et le Fils, et les uns avec les autres, demeurant dans l'unité de son Saint-Esprit, dans le lien de sa sainte paix, dans son Église dont il est le chef. Mon désir est que la sagesse de Dieu soit partout justifiée par ses enfants, et qu'elle se manifeste dans la douceur et dans la crainte du Seigneur en ce jour qui est le sien. Amen. George Fox. Lorsque la réunion annuelle fut terminée, j'étais très fatigué et épuisé. Ainsi, environ une semaine après, je sortis de la ville pour aller chez un ami, un peu au-delà d'Edmonton. J'y demeurai quelque temps, ainsi qu'à South Street, et j'eus des réunions parmi les amis là-bas, et à Winchmore Hill et Berry Street. Mon esprit étant continuellement exercé dans les choses de Dieu, le sentiment de son infinie bonté et de sa miséricorde envers les hommes, en les visitant après qu'ils avaient transgressé et s'étaient rebellés contre lui, et en pourvoyant à une voie et à des moyens pour qu'ils reviennent à lui, était très présent en moi. Et dans l'ouverture de l'esprit de vérité, j'écrivis le texte suivant sur ce sujet. Dieu qui a fait tous les hommes et toutes les femmes, bien qu'il ait transgressé ses commandements et ses lois, se soit rebellé contre lui, et haï sa lumière, attristé son esprit et marché avec mépris contre son esprit de grâce, pourtant, lui qui est miséricordieux, veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tous ceux qui viennent à la connaissance de la vérité doivent la connaître au-dedans d'eux-mêmes. Je dis, la grâce et la vérité, qui viennent par Jésus, tous ceux qui les connaissent et les trouvent doivent les connaître et les trouver dans leur cœur. Cela trouve l'homme caché du cœur, la perle, le levain, la pièce d'argent perdue, et le royaume des cieux au-dedans. Car jusqu'à ce que tous viennent à la lumière et à la vérité dans leur cœur, ils ont été étrangers à ces choses, en Adam dans la chute, éloignés de l'image de Dieu, de sa lumière, de sa puissance et de son esprit, et de son royaume. Mais le Christ, qui n'est jamais tombé, ramène l'homme et la femme, qui le suivent, à connaître ces choses, et à connaître la vérité, lui le Sauveur, et les ramène dans son image et dans son royaume éternel. Le diable, qui est hors de la vérité, tenta l'homme et la femme de désobéir à Dieu, et ainsi les entraîna dans la chute, loin de la vérité. C'est le diable qui a fermé les yeux, les oreilles et les cœurs des hommes à la vérité, On l'appelle le Dieu de ce monde, il a aveuglé les yeux des infidèles ou des païens. Mais le Christ, qui brise la tête du serpent et détruit le diable et ses œuvres, ouvre les cœurs, les yeux et les oreilles des hommes. Il est leur sauveur et leur rédempteur, et il donne la vie éternelle à son peuple, qui lui obéit et obéit à sa vérité. Béni soit le Seigneur à jamais par Jésus-Christ, qui a goûté la mort pour tous les hommes, pour les tirer de la mort d'Adam, et il est l'expiation pour les péchés du monde entier, et s'est donné en rançon pour tous, afin que cela soit attesté en temps voulu. Car de même que, par la transgression et la désobéissance d'Adam, la mort et la condamnation sont venues sur tous les hommes, de même, par l'obéissance du Christ à Dieu jusqu'à la mort, la justification qui donne la vie est venue sur tous les hommes, et celui qui croit au Christ a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, telle qu'elle est en Jésus, qui est leur sauveur, et en Christ, il n'y a point de condamnation. George Fox, après être resté ici quelque temps, j'allais à une réunion mensuelle à Enfield, puis de là, avec quelques amis à Hertford, où je demeurai 3 ou 4 jours, visitant les amis tant à leur réunion publique le premier jour qu'à leur réunion trimestrielle d'hommes et de femmes. Et j'eus parmi eux un bon service pour le Seigneur. Puis, en passant à Walsama Bay, j'eus une très bonne réunion avec les amis, et le lendemain j'allai en un autre lieu pour concilier un différend qui, faute de s'être bien compris, était survenu entre quelques amis. Je revins à Walsum cette nuit-là, et le lendemain j'allai avec quelques amis à la maison de William Mead dans l'Essex. Je restai ici plusieurs semaines, pourtant je ne fus pas oisif, mais je visitai souvent les réunions des environs, comme à Wanstead, Barking et chez John Harding. Entre les réunions, j'écrivis beaucoup de choses pour la propagation de la vérité et pour ouvrir l'entendement des gens afin qu'ils la reçoivent. L'une était un texte, prouvant par les Écritures que les gens doivent se repentir avant de pouvoir recevoir l'Évangile, le Saint-Esprit et le Royaume de Dieu, et d'être baptisés. Jean-Baptiste vint prêcher dans le désert de Judée, disant « Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche. » Matt 3:1-2. Lorsque Jean-Baptiste eut été mis en prison, Marc dit, « Jésus vint en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu et disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à l'évangile. » Marc 1, 14-15. Matthieu dit aussi, « Dès ce moment Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Matt 4-17. Et quand Christ envoya ses 12 disciples, 2 à 2, ils partirent et prêchèrent que les hommes devaient se repentir. Marc 6, 7-12. Le Christ dit aux Juifs, « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous. » Luc 13, 3-5. Lorsque les publicains et les pécheurs vinrent entendre le Christ, les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Luc 15, 1-2. Le Christ les reprit par une parabole, puis leur dit, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Luc 15, 7. Ajoutant, « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Luc 15, 10. Le Christ, après être ressuscité, dit à ses disciples que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Luc 24, 47. Pierre dit aux Juifs, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, 38. Paul dit, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir. » Acte 17-30. Simon le magicien fut appelé à la repentance s'il y avait pris garde. Acte 8-22. L'apôtre Paul prêcha à Damas, à Jérusalem, dans toute la Judée, et ensuite aux gentils, les détournant des ténèbres vers la lumière du Christ, et de la puissance de Satan vers Dieu, afin qu'ils se repentent et se tournent vers Dieu, en faisant des œuvres dignes de la repentance. Acte 26-20. Ici, vous pouvez voir que les gens doivent se repentir avant de croire et d'être baptisés, et avant de recevoir le Saint-Esprit et le royaume de Dieu. Ils doivent se repentir de leur vie et de leur conduite vaines avant de recevoir l'Évangile, et doivent être détournés des ténèbres vers la lumière du Christ, de la puissance de Satan vers Dieu, avant de recevoir son Saint-Esprit et son Évangile de vie et de salut. Le Seigneur ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se repentir et de faire des œuvres convenables à la repentance. Ils doivent montrer que leur vie, leur conduite et leur langue ont changé et qu'ils servent Dieu dans la nouveauté de vie, avec de nouvelles langues et de nouveaux cœurs. George Fox Gooses, le 6 mois 1687, un autre court texte, que j'écrivis à peu près au même moment, montrait à quoi le peuple de Dieu doit ressembler. Ainsi, Dieu est juste et il veut que son peuple soit juste et agisse avec justice. Dieu est saint et il veut que son peuple soit saint et accomplisse des œuvres saintes. Dieu est équitable, et il veut que son peuple soit équitable et agisse avec équité envers tous. Dieu est lumière, et ses enfants doivent marcher dans sa lumière. Dieu est un esprit éternel et infini, et ses enfants doivent marcher dans l'esprit. Dieu est miséricordieux, et il veut que son peuple soit miséricordieux. Le soleil de Dieu brille sur les bons et sur les mauvais, et il fait tomber la pluie sur les méchants et sur les bons. Ainsi son peuple doit-il faire du bien à tous. Dieu est amour, et ceux qui demeurent dans l'amour demeurent en Dieu. L'amour ne fait point de mal au prochain, c'est pourquoi l'amour est l'accomplissement de la loi. Rome 13, 10. L'apôtre dit, « Toute la loi est accomplie en une seule parole, en ceci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Galates 5, 14. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Jean 15, 9. « Telle devrait être la pratique de tout le peuple de Dieu. » George Fox Gooses, le 6 mois, 1687. Et comme la plupart des gens confesseraient que le peuple de Dieu devrait être ainsi, mais que peu savent comment parvenir à cet état, dans les ouvertures de l'Esprit de vérité j'écrivis un autre court texte, indiquant la bonne voie et les moyens par lesquels les gens pourraient venir à Christ, et ainsi être rendus semblables à Dieu. Ainsi le Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. « Et encore, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Jean 6, 44. Quel est donc le moyen par lequel Dieu attire son peuple à son Fils, sinon par son Saint-Esprit, qui y répand de son Esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur tous les hommes et toutes les femmes? Par ce Saint-Esprit, le Dieu Saint et juste attire les gens de leur injustice et de leur impureté vers Christ, le juste et le saint, le grand prophète dans sa nouvelle alliance et son nouveau testament, dont Moïse dans l'ancienne alliance et l'ancien testament, disait que Dieu le susciterait semblable à lui, et que le peuple devait l'écouter en toutes choses, et ceux qui ne l'écouteraient pas seraient retranchés. Ceux qui n'écoutent pas le Fils de Dieu, le grand prophète, ne prêtent pas attention à l'attraction du Père par son Saint-Esprit vers son Fils, mais ceux qui prêtent attention aux attirances du bon Esprit du Père vers son Fils, l'Esprit leur donne l'intelligence pour connaître Dieu et Jésus-Christ, ce qui est la vie éternelle. Alors ils savent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut venir à Dieu sinon par et au travers de son Fils, qui est leur berger pour les nourrir dans ses pâturages et aux sources de vie. Ses brebis connaissent sa voix sainte, lui en qui il n'y avait point de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude, et elles n'écouteront pas un mercenaire, car il ne se soucie pas des brebis, elles ne sont pas aux mercenaires, mais au Christ, qui a donné sa vie pour ses brebis. Celui qui vole et dérobe les paroles de son prochain, qui grimpe par un autre chemin et n'entre pas par la porte, est un voleur et un brigand, mais le Christ est la porte du bercail par laquelle ses brebis entrent. Elles savent que Christ est le gardien, bishop de leurs âmes, pour veiller à ce qu'elles ne s'égarent pas loin de Dieu ni ne sortent de ses pâturages de vie. Elles savent que Christ est leur médiateur, qui fait leur paix avec Dieu. Elles savent que Christ est leur souverain sacrificateur, élevé au-dessus des cieux. Il est mort pour leurs péchés, les purifie par son sang, est ressuscité pour leur justification, et il peut sauver parfaitement tous ceux qui viennent à Dieu par lui. George Fox Gooses, le 6 mois, 1687. Avant de quitter ce lieu, j'écrivis un autre texte, dont l'objectif était de montrer, par de nombreux exemples tirés des Saintes Écritures, que le royaume de Dieu, dont la plupart des gens parlent comme de quelque chose de lointain dans l'avenir et qu'il ne rapporte qu'à ce qui arrive après la mort, peut être, dans une certaine mesure, connu et dans lequel on peut entrer dès cette vie, mais que nul ne peut y avoir une entrée, sinon ceux qui sont régénérés et nés de nouveau. Voici une copie de ce texte, le Christ dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3, 3. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 6. Ainsi, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 5. Et Jean, écrivant aux sept églises d'Asie, s'appelle leur frère et compagnon dans la tribulation, dans le royaume et dans la patience de Jésus-Christ. Apoc 1, 9. Vous pouvez voir ici que Jean était dans le royaume, donc il était né de nouveau, car non seulement il voyait le royaume, mais il y était. Et Jean dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, c'est pourquoi le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. » 1 Jean 3, 1. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Verset 2. « Si vous savez qu'il est juste, vous savez que quiconque pratique la justice est né de lui. » 1 Jean 2, 29. « Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » 1 Jean 3, 9. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, 7, 8. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. 1 Jean 5, 1. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Ceux qui sont nés de Dieu, ne sont-ils pas dans le royaume de Dieu, ayant triomphé du monde? Et puisque Jean dit, Quiconque pratique la justice est né de Dieu. Ceux qui pratiquent la justice et demeurent fermes dans la justice ne voient-ils pas le royaume de Dieu et n'y entrent-ils pas ? Pierre, dans sa première épître générale à l'Église du Christ, dit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. » 1 Pie 2:2. Et il leur dit qu'ils étaient une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin qu'ils annoncent les vertus de celui qui les a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pie 2:9. Et qu'en tant que pierre vivante, ils étaient édifiés en une maison spirituelle, un saint sacerdoce pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 5. Ces enfants nouveau-nés, ces pierres vivantes, cette maison spirituelle, ce sacerdoce royal, cette nation sainte et cette race élue, qui ont été appelés des ténèbres à l'admirable lumière du Christ, ne voyaient-ils pas et n'entraient-ils pas dans son saint royaume, en étant héritiers ? Ceux-là étaient nés de nouveau, non d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. 1 Pie 1:23. Et à de tels n'était-il pas accordé une entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ? Jacques, dans son épître générale à l'Église du Christ, dit « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ?» Jacques 2:5. L'apôtre Paul dit « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, etc. » pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». C'est pourquoi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Galates 4:4-7. Le même apôtre dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu », et il dit aux saints de Rome « Vous avez reçu l'Esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui, à savoir avec le Christ. Romains 8:14-17. Or, puisque ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et que l'Esprit rend témoignage à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, tous ces enfants de Dieu ne sont-ils pas héritiers du royaume juste et glorieux de Dieu ? Et ne le voient-ils pas et n'y entrent-ils pas ? Le Seigneur a dit en Osée 1:10, là où il leur a été dit, « Vous n'êtes pas mon peuple », là il leur sera dit, « Vous êtes les fils du Dieu vivant ». Cela ne se rapportait-il pas au jour de l'évangile de la Nouvelle Alliance ? Voir Romains 9:26, et ce que le Seigneur a dit par le prophète Jérémie, ch. 31:1, l'apôtre l'applique au jour de l'Évangile, et dit « Soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » 2 Cor 6:16. Ne sont-ce pas ces enfants qui voient et entrent dans le royaume juste de Dieu, ceux qui se séparent de ce qui est impur et n'y touchent pas ? Le Seigneur a dit aussi par Ésaïe « Je dirai au nord, donne, et au midi, ne retiens pas. » Amène mes fils de loin, et mes filles des extrémités de la terre. Isaïe 43:6. Ne les amène-t-il donc pas dans son royaume de gloire, qui subsiste dans la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit ? Le Seigneur dit à Job, quand les étoiles du matin éclataient en chant, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Job 38:7. Où ces fils de Dieu poussèrent-ils des cris de joie ? N'était-ce pas dans son royaume de gloire ? Le Christ dit, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Luc 7:28. Et en Luc 16:16 il dit, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis ce temps, c'est-à-dire depuis la loi, les prophètes et Jean, le royaume de Dieu est annoncé et chacun s'y presse. » La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Matthieu 13:38. Et les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Matthieu 13:43. Le Christ dit à ses disciples, « Il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. » Marc 4:11. Le Christ leva les yeux sur ses disciples et dit, « Vous êtes heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Luc 6:20. Les apôtres prêchaient le royaume de Dieu. Ceux-là étaient nés de nouveau, qui voyaient et connaissaient le royaume de Dieu et le prêchaient. Le Christ dit à ses disciples, « Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. » Luc 12:32. « Je vous destine un royaume, dit Christ, comme mon Père m'en a destiné un. » Luc 22:29. Le Seigneur dit, « Celui qui vaincra héritera toutes choses, je serai son Dieu et il sera mon Fils. » Apoc 21:7. Et Jean dit, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » 1 Jean 2:14. Et le Christ, par qui sont toutes choses, est dit amener beaucoup de fils à la gloire. HBR 2:10 il dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, car vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Matt 23, 13. Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entré vous-même, et vous avez empêché d'entrer ce qui entrait. Luc 11, 52. Le Christ donne à ses enfants les clés du royaume, son esprit. Mais les scribes, les pharisiens et les docteurs de la loi, grands professeurs, s'étaient égarés loin de l'esprit, comme les grands professeurs de notre époque. Ils se moquent de l'esprit et détournent les gens de l'esprit de Dieu au-dedans. Cela ferme le royaume aux hommes et les détourne de la clé de la connaissance et de la clé du royaume. Car nul ne connaît les choses de Dieu, sinon par l'esprit de Dieu, car les choses de Dieu se discernent spirituellement. L'esprit est la clé par laquelle le royaume de Dieu et les choses de Dieu sont révélées, discernées et connues, selon 1 Corinthiens 10, 14. L'apôtre nomme quelques-uns dans son épître aux Colossiens et dit « Ceux-ci sont mes compagnons d'œuvre pour le royaume de Dieu. » Col 4, 11. Et il dit à cette église que « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Col 1, 13. Vous pouvez donc voir que cela était né de nouveau, qui avait été transporté dans le royaume du Christ et était compagnon d'œuvre pour le royaume de Dieu. Le Christ exhorte ses disciples à aimer et à faire du bien, afin qu'ils soient les enfants de leur Père qui est aux cieux. Matt 5, 45. Il leur dit d'être parfaits comme leur Père céleste est parfait. Verset 48. L'apôtre dit à l'église de Philippe, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au milieu d'une génération tortueuse et perverse, au milieu de laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde, présentant la parole de vie, etc. » Phil 2, 15, 16. Et écrivant à l'église des Thessalonians, il leur rappelle comment il les avait exhortés à marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelés à son royaume et à sa gloire. 1 2 12. Le Seigneur avait promis par le prophète Joël qu'il répandrait de son esprit sur toute chair, et que des fils et des filles prophétiseraient, des vieillards auraient des songes, et des jeunes gens des visions. Joël 2 28. La raison pour laquelle les fils et les filles, les servantes, les serviteurs, les jeunes gens et les vieillards n'ont pas ces visions, ces songes et ces prophéties célestes, c'est qu'ils se sont égarés loin de l'Esprit de Dieu, qu'il répand sur eux, mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jean dit que Christ était la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Jean 1, 9. Et que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 12. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme mais de Dieu. Verset 13. La raison pour laquelle les gens ne deviennent pas enfants de Dieu, c'est qu'ils ne reçoivent pas Christ. Les Juifs, les grands docteurs, qui avaient les promesses, les prophéties, les figures et les ombres de lui, ne voulurent pas le recevoir lorsqu'il vint. Et maintenant les prêtres et les grands docteurs de Christ sont si loin de recevoir la lumière de Christ et d'y croire, qu'ils haïssent la lumière et s'en moquent, l'appelant une conscience naturelle, et certains, Jacques aux lanternes. Ceux-là ne sont guère susceptibles de devenir enfants de Dieu, ni de voir le royaume glorieux de Christ, qui consiste en justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Car la lumière qui brille dans le cœur donne la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. 2 Cor 4, 6. Ceux qui ne reçoivent pas Jésus-Christ mais haïssent sa lumière qui est la vie en lui, et pourtant le professent en parole, ne connaissent ni les enfants de la lumière, ni la véritable communion dans la lumière, ni le royaume de Dieu, qui consiste en justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, mais par la lumière ils sont condamnés. Et voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Jean 3, 19, 20. Mais les enfants de la lumière, qui marchent dans la lumière, parviennent à la Jérusalem céleste, à la cité du Dieu vivant, à la multitude innombrable d'anges, à l'assemblée générale et à l'église des premiers-nés inscrits dans les cieux, et à Dieu juge de tous, et aux esprits des justes parvenus à la perfection HPR 12, 22, 23, et peuvent chanter Alléluia. George Fox Gooses, le 2 jour du 7 mois, 1687, extrait de Valiant for the Truth, au 4e mois 1687, le roi publia un ordre selon lequel l'exécution de toutes les lois pénales concernant les affaires ecclésiastiques devait être suspendue. Cela aurait été plus acceptable si cela avait été l'action du roi et de son parlement, plutôt que le simple exercice de sa prérogative royale. Mais la liberté fut accordée, et comme les autres dicides, les amis présentèrent une adresse au roi Jacques exprimant leur reconnaissance. Celle-ci fut reçue favorablement, et lors de la réunion de l'Assemblée annuelle en 1687, il fut décidé d'envoyer au roi une adresse émanant de ce corps par les mains de William Penn, qui avait libre accès à la personne royale. À cette adresse, le roi fit la réponse suivante : « Messieurs, je vous remercie de tout cœur de votre adresse. Certains d'entre vous savent, j'en suis sûr, vous le savez, M. peine que ce fut toujours mon principe que la conscience ne doit pas être contrainte et que tous les hommes doivent avoir la liberté de conscience. Et ce que j'ai promis dans ma déclaration, je continuerai de l'accomplir tant que je vivrai, et j'espère, avant de mourir, l'établir de telle sorte que les siècles à venir n'aient aucune raison de le modifier. Le roi Jacques ne devait pas être l'instrument de l'établissement de la liberté de conscience en Angleterre. Son pouvoir vacillait déjà, et de nouvelles mesures en ce sens provoquèrent une grande agitation dans son Parlement. Le peuple anglais craignait que la tolérance, chez lui, ne signifiât que faveur accordée à la religion catholique romaine, et la nomination de ceux qui professaient cette foi aux plus hautes charges de l'État accroissait le sentiment d'inquiétude. En cette crise, l'attention se tourna vers le prince et la princesse d'Orange, comme l'espoir de la nation. Le prince, on s'en souvient, était un petit-fils de Charlier et son épouse une fille de Jacques Yi. Elle avait été élevée dans la religion protestante sur les ordres exprès de Charlier, et leur mariage avait été arrangé par le roi Jacques pour apaiser le mécontentement croissant de ses sujets. Marie, princesse d'Orange, était l'héritière présomptive de la couronne d'Angleterre, et c'est vers elle et son mari que se tournaient les yeux de la nation anglaise dans cette situation d'urgence. Il n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage de relater en détail les événements qui les placèrent sur le trône. Il suffit de dire que Jacques, alarmé pour sa sécurité personnelle, s'enfuit en France, et que Guillaume et Marie furent couronnés roi et reine d'Angleterre au quatrième mois 1689. Un roi et une reine protestants étant désormais assis sur le trône d'Angleterre, avec un parlement uni à eux dans la politique de maintien de cette forme de religion, le premier sujet qui réclama leur attention fut la modification des lois relatives aux dicides. Un acte de tolérance fut préparé, qui exemptait les sujets protestants, dicides de l'Église d'Angleterre, des peines de certaines lois destinées à les contraindre à la conformité. Les amis étaient sur le qui-vive pour que l'acte fût rédigé de manière à les inclure dans son champ d'application. Cela était très nécessaire, car le projet de loi avait une confession de foi annexée, rédigée dans l'idée d'exempter les « Quakers » de ces dispositions, sous prétexte qu'ils n'étaient pas chrétiens. Il ne fallait pas s'attendre à ce que notre vieux vétéran, qui avait si longtemps conseillé ses frères, se tînt à l'écart de ce conflit. Dans son journal, il dit « Quoique j'eusse le corps faible et ne fusse guère en état de me remuer, une si grande sollicitude pesait sur mon esprit en faveur de la vérité et des amis, que j'assistais continuellement, avec beaucoup d'amis, à la chambre du Parlement, travaillant avec les membres afin que la chose fût faite d'une manière ample et efficace. Une confession de foi fut rédigée par les amis et présentée au Parlement par un comité de leur corps, lesquels furent interrogés à ce sujet. Le résultat de l'enquête fut que le Parlement fut convaincu que le cacrisme n'était pas contraire au christianisme protestant, comme il croyait fermement que l'était la secte romaine. Leur profession de foi peut, aujourd'hui, présenter de l'intérêt. Question. Croyez-vous à la divinité et à l'humanité de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu, ou que Jésus-Christ est véritablement Dieu et homme ? Réponse. Oui, nous croyons véritablement que Jésus-Christ est véritablement Dieu et homme, selon ce que les saintes Écritures témoignent de lui, Dieu au-dessus de tout, béni éternellement, le vrai Dieu et la vie éternelle, l'unique médiateur entre Dieu et l'homme, à savoir l'homme Christ Jésus. Question. Croyez-vous et attendez-vous le salut et la justification par la justice et les mérites de Jésus-Christ, ou par votre propre justice et vos œuvres ? Réponse. Par Jésus-Christ, sa justice, ses mérites et ses œuvres, et non par les nôtres. Dieu ne nous est redevable de rien de ce que nous pourrions mériter, mais nous lui sommes redevables de sa grâce gratuite en Jésus-Christ, par laquelle nous sommes sauvés par la foi en lui, non par nous-mêmes, et par sa grâce nous sommes rendus capables de le servir et de le suivre vraiment et agréablement, comme il l'exige. Il est notre tout en tout, lui qui opère en nous tout ce qui est agréable à Dieu. Question. Croyez-vous à la rémission des péchés et à la rédemption par les souffrances, la mort et le sang de Christ ? Réponse. Oui, par la foi en lui, puisqu'il a souffert et est mort pour tous les hommes, s'est donné lui-même en rançon pour tous, et son sang ayant été versé pour la rémission des péchés, tous ceux qui croient sincèrement en lui et lui obéissent reçoivent les effets bénis de ses souffrances et de sa mort pour eux. Ils reçoivent et participent, par la foi en son nom, à cette rédemption éternelle qu'il a obtenue pour nous, lui qui s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et maintenant le soulagement tant attendu était venu, et les amis, comme les autres disciples de la secte anglicane, furent soulagés dans une certaine mesure des souffrances qui pesaient si lourdement sur eux. Ils pouvaient se réunir en paix pour adorer Dieu et n'étaient plus tenus de prêter serment. Les dîmes étaient encore exigées et ils subirent, à cet égard, la perte de leurs biens, mais les emprisonnements cruels cessèrent. Nul ne se réjouit davantage de cette délivrance que George Fox, dont le corps ressentait désormais les effets de son labeur assidu pour son maître, mais dont l'esprit demeurait frais et fort. À l'instar du disciple bien-aimé d'autrefois, l'amour était le sentiment dominant dans son cœur, et l'amour le thème de ses exhortations au peuple. Après avoir passé plus d'un quart d'année à la campagne, je revins à Londres dans une santé un peu meilleure qu'auparavant, ayant tiré grand bénéfice de l'air de la campagne. Et comme c'était un temps de liberté générale et de grande ouverture parmi le peuple, j'eus beaucoup de services pour le Seigneur dans la ville, étant presque tous les jours aux réunions publiques, et étant fréquemment occupé à visiter les amis qui étaient malades, ainsi qu'à d'autres services de l'Église. Je restai à Londres environ 3 mois, puis, trouvant mes forces fort épuisées par un travail continuel dans l'œuvre du Seigneur, et mon corps fort gêné par manque d'air frais, j'allai chez mon fils Rose, près de Kingston, où je demeurai quelque temps, et je visitai les amis à Kingston. Pendant que j'y étais, il me vint à l'esprit d'écrire un texte concernant les Juifs, montrant comment, par leur désobéissance et leur rébellion, ils perdirent la ville sainte et le pays. Par cet exemple, les chrétiens de profession peuvent voir ce qu'ils doivent attendre s'ils continuent de désobéir et de provoquer le Seigneur. En voici la copie. Le Seigneur donna aux Juifs, dans l'Ancien Testament, le pays de Canaan, et ils bâtirent le temple à Jérusalem pour y adorer. Il était appelé le Saint-Temple, et Jérusalem était appelée la ville sainte et Canaan la terre sainte. Mais lorsque les Juifs se rebellèrent contre le bon esprit que Dieu leur avait donné pour les instruire, et se rebellèrent contre sa loi, et établirent des idoles et des images, et souillèrent le pays et la ville, le Seigneur envoya ses prophètes pour crier contre eux. Les prophètes devaient les ramener à son esprit, à sa loi, et ainsi à Dieu, afin de le servir et de l'adorer, pour qu'ils n'adorent pas des images et des idoles, œuvres de leurs propres mains. Mais au lieu d'écouter les prophètes de Dieu, ils les persécutèrent et à la fin, tuèrent son Fils, Christ Jésus, et persécutèrent ses apôtres. Mais Christ dit aux Juifs que leur ville et leur temple seraient dévastés, et qu'ils seraient dispersés parmi toutes les nations, et il en fut ainsi. Titus, l'empereur romain, vint, prit Jérusalem et détruisit la ville et le temple. Ce fut un jour de vengeance contre les Juifs pour toutes leurs idolâtries, leur méchanceté et le sang innocent qu'ils avaient versé tant dans la ville qu'à la campagne, et ils furent chassés de leur propre ville et de leur pays, et dispersés parmi toutes les nations. Depuis lors, les Juifs n'ont jamais eu le pouvoir de reprendre le pays, ni de rebâtir Jérusalem ni le temple, mais le Turc possède à la fois le pays de Canaan et ce qu'on appelle la ville de Jérusalem. Or le Turc ne fait ni image ni n'adore d'image. Ainsi c'est une juste main du Seigneur qu'il domine sur les Juifs persécuteurs et idolâtres, de sorte qu'ils ne peuvent plus souiller maintenant le pays de Canaan par des images et des idoles, car le Turc n'en a pas, lui qui ne fait ni image ni idole, et ne les adore pas. Les Juifs ne doivent jamais espérer, croire ni s'attendre à retourner un jour dans le pays de Canaan, pour établir un culte extérieur à Jérusalem, et pour que leurs prêtres y offrent des sacrifices extérieurs de béliers, de brebis et de génisses, etc. En holocauste, astérisque car Christ, l'offrande unique, s'est offert lui-même une fois pour toutes, et par cette unique offrande il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et Christ a changé le sacerdoce d'Aaron, qui offrait des sacrifices, lequel avait été établi selon la puissance d'un commandement charnel, mais Christ a été fait selon la puissance d'une vie impérissable, prêtre pour toujours, saint, innocent, séparé des pécheurs, et prêtre élevé au-dessus des cieux. C'est ce prêtre qui donne pouvoir à tous ceux qui le reçoivent de devenir fils et filles de Dieu, et la Jérusalem d'en haut est la mère de tous les fils et filles de Dieu, et elle est libre, mais la Jérusalem d'en bas est en servitude avec ses enfants. Ceux qui sont enfants de la Jérusalem dont on ne regarde pas en bas vers la Jérusalem d'en bas, mais ils regardent vers la Jérusalem d'en haut qui est leur mère. Astérisque la chrétienté pense que le temple sera reconstruit et que les sacrifices dans le temple seront rétablis, mais George Fox nous dit que cela n'arrivera plus jamais. La chrétienté a tort. Christ dit, « Ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne de Samarie, que l'on adorera Dieu, mais Dieu doit être adoré en esprit et en vérité, car il est esprit, et ce sont de tels adorateurs qu'il cherche. » Jean 4, 21-23. C'est là le culte que Christ a établi il y a plus de 1600 ans. Par conséquent, les Juifs idolâtres ne doivent jamais penser offrir leurs offrandes et sacrifices extérieurs, ni établir leur culte extérieur à Jérusalem, dans la terre sainte de Canaan. Car Christ, en s'offrant lui-même une fois pour toutes pour les péchés du monde entier, a mis fin à toutes les offrandes des Juifs, a changé le sacerdoce et la loi par laquelle il était établi, a effacé l'acte des ordonnances qui prescrivaient à la fois prêtres et offrandes, et a triomphé d'eux. Ainsi il est l'offrande et le sacrifice de tous les enfants du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance et de la Nouvelle Jérusalem céleste qui est en haut. Il est leur prophète qui leur ouvre, leur berger qui les nourrit, leur évêque qui veille sur eux, et le prêtre qui est mort pour leurs péchés et qui est ressuscité pour leur justification, qui les sanctifie et les présente à Dieu. Il est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme, à savoir l'homme Christ Jésus. George Fox Kingston, le 9 au jour du 10 mois, 1687. Après cela je me rendis à Guildford pour y visiter les amis, et je restai 3 jours avec eux, et j'eus une grande et très bonne réunion le premier jour. Après quoi je revins à Kingston, et y demeurai environ 2 semaines de plus, visitant les amis et tenant des réunions parmi eux, tant dans leur maison de réunion publique que dans leur famille. J'écrivis beaucoup de choses pendant que j'étais à Kingston, parmi lesquelles se trouvait ce qui suit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, noté ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. Il dit encore, « Celui qui croit au Fils de Dieu a noté à la vie éternelle. » Jean 3, 36. Ainsi ces croyants ont la vie éternelle tandis qu'ils sont sur la terre. Et celui qui croit en Christ n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, et la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui entend la parole de Christ et croit en Dieu qu'il a envoyé à noter à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort dans le premier Adam à la vie en Christ le second Adam. Jean 5, 24. Et cette nourriture que Christ donne demeure jusque dans la vie éternelle, comme en Jean 6, 27. Et l'eau que Christ donne sera, en celui qui en boit, une source d'eau jaillissant jusque dans la vie éternelle. Jean 4, 14. Christ dit aux Juifs, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi, afin d'avoir la vie. » Jean 5, 39, 40. Ici vous pouvez voir que la vie éternelle se trouve en Christ, et non dans les Écritures qui témoignent de lui la vie. Les brebis de Christ, qui entendent sa voix, le connaissent et le suivent, il leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de sa main. Ils ne raviront pas les brebis de Christ, auxquelles il a donné la vie éternelle, de sa main éternelle. Christ dit à Mod, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, quand même il serait mort noté, quand même il serait mort, vivra pourtant noté, vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Mod dit, « Oui Seigneur, Jean 11, 25, 27. » C'est là la vraie foi substantielle, ceux qui croient ne périront point, mais auront la vie éternelle. Jean dit, « Voici le témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. » 1 Jean 5, 11. « La vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous est apparue. » 1 Jean 1, 2. Ainsi cela étaient les croyants qui avaient la vie éternelle dans le Fils de Dieu et la montraient aux autres. « Celui qui a le Fils a la vie, dit Jean, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » 1 Jean 5, 12. Christ dit, « Quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou pères, ou mères, ou femmes, ou enfants, ou terre à cause de mon nom, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Matt 19, 29. « Les méchants qui ne reçoivent pas Christ iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Les vrais serviteurs de Dieu ont pour fruit la sainteté, et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ceux-là ont un édifice de Dieu, une maison non faite de main d'homme, éternelle dans les cieux. C'est pourquoi je désire que le peuple de Dieu endure toute chose afin d'obtenir ce salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Car Christ, ayant été rendu parfait, est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Ce salut éternel est au-dessus d'un salut extérieur, car ils viennent à recevoir un héritage éternel, et vivent en possession de l'évangile éternel de joie, de consolation, de paix et de salut, ayant la vie éternelle en Jésus-Christ. George Fox Kingston, le 6 jour du 11 mois, 1687. J'écrivis un autre texte concernant la pierre dont parle Daniel, ch. 2:35, qui devint une grande montagne et remplit toute la terre, montrant que, par là était présenté le royaume et la puissance de Christ. Lorsque Christ, la pierre qui devint une grande montagne et remplit toute la terre, eut brisé en morceaux la tête d'or, la poitrine d'argent, le ventre d'airain, les jambes de fer et les pieds en partie de fer en partie d'argile, qui étaient les 4 monarchies babyloniennes et mèdes, grecques et romaines, et qu'il mit fin au royaume typique extérieur des Juifs, Daniel dit, « Au jour de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Dan 2, 44, Christ dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, Matt 28, 18, et mon royaume n'est pas de ce monde, Jean 18, 36. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône, soit domination, soit principauté, soit puissance, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Col 1, 16, 17. Ici vous pouvez voir que toutes choses subsistent par Jésus-Christ, et que toutes choses ont été créées par Christ et pour lui, qu'elles soient dans les cieux ou sur la terre, visibles ou invisibles, oui, trône, domination, principauté ou puissance, tout cela a été créé par lui et pour lui. Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs, Apoc 19, 16. Le prince des rois de la terre, Apoc 1, 5. De sa bouche sort une épée aiguë, avec laquelle il frappera les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et comme un vase de potier, seront brisés en pièces ceux qui ne lui obéissent pas, ô roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est ce Christ qui dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, ainsi il est sur toutes les nations et au-dessus d'elles toutes. » Il faut comprendre que ce sceptre de fer, par lequel Christ gouverne les nations, est une manière figurée de parler de Christ, qui est monté au ciel et est à la droite de Dieu. Tout pouvoir au ciel et sur la terre lui a été donné, et toutes choses ont été créées par lui et pour lui, elles sont donc à Christ, et il a pouvoir sur toutes choses, car tout est à lui. Ainsi comme l'Écriture le dit, « Par moi les rois règnent et les princes ordonnent la justice. » Pro 8, 15. Mais s'ils abusent de son pouvoir et ne rendent pas justice, comme Christ l'a ordonné, le roi des rois et seigneur des seigneurs, le premier et le dernier, ils doivent sentir le poids de son sceptre de fer, par lequel il gouvernera ceux qui abusent de son pouvoir. Cela est ordonné par celui à qui tout pouvoir au ciel et sur la terre a été donné, et qui règne sur les royaumes des hommes. George Fox Kingston, le 11 mois, 1687. J'écrivis encore plusieurs autres choses pendant que j'étais à Kingston, car mon esprit étant continuellement exercé vers Dieu, j'eus beaucoup de précieuses ouvertures sur les choses divines, et divers passages de l'Écriture, tant de l'Ancien Testament que du Nouveau, relatifs à l'état de régénération et de sanctification, etc. Me furent rappelés par le Saint-Esprit, quelques-uns desquels je consignai par écrit comme suit. Ce qui touchait un mort était impur, et devait être purifié par l'eau de purification. Nom 19, 11, 13. Et ce qui touche des doctrines ou des croyances mortes, et les laisse entrer, charge les purs, ils se souillent et se rendent impurs, jusqu'à ce que la source de l'eau de la parole se lève et les lave et les purifie. Car tous les morts en Adam dans la chute sont impurs, et ils doivent être lavés par Christ dans son sang et l'eau de vie, lui qui vivifie et rend la vie. Un âne ne devait pas s'approcher pour offrir sur l'autel de Dieu, mais il pouvait manger du pain saint afin de croître. Lév 21, 20, 21. Ainsi les nouveau-nés peuvent se nourrir du lait de la parole, afin de croître par là et d'augmenter. Celui qui avait quelques défauts ne devait pas s'approcher pour offrir sur l'autel de Dieu, et rien non plus ne devait être offert sur l'autel de Dieu qui quelques défauts ou fût impur. Lév 21, 21. Et il est dit, « Les méchants ne subsisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Psaume 1, 5. Mais Dieu se tient dans l'assemblée des puissants. Psaume 82, 1. Le camp de Dieu devait être tenu propre et saint. Ce qui était impur ou souillé devait être tenu hors du camp de Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, tout ce qui est souillé et impur doit être tenu hors du royaume de Dieu, la nouvelle Jérusalem céleste qui est d'en haut. Tout devait passer par le feu, toutes les choses qui pouvaient supporter le feu et être purifiées par le feu et l'eau, avant que le peuple pût entrer dans le camp de Dieu. Nom 31, 23. Ainsi tous doivent être circoncis, baptisés du Saint-Esprit et de feu, purifiés par le sang de Christ, et lavés par l'eau de la parole, avant d'entrer dans le royaume de Dieu, dans la Jérusalem céleste. L'apôtre Paul dit, « Nous savons que si notre maison terrestre, cette tente, venait à être détruite, nous avons de Dieu un édifice, une maison non faite de main d'homme, éternelle dans les cieux. Car dans cette tente, nous gémissons, désirant ardemment revêtir notre demeure céleste, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » 2 Cor 5, 1, 4. Voici, nous dans la maison terrestre de cette tente, lesquels nous, comme ceux qui ont reçu Christ, sont devenus enfants de Dieu, nouvelles créatures, et enfants de la lumière, qui croient en la lumière de Christ, qui ont une demeure éternelle dans les cieux, où la mortalité est engloutie par la vie, et dans laquelle, cette demeure venant du ciel, ils ne gémiront pas. Pierre dit, « Je juge à propos, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller par des rappels, sachant que bientôt je quitterai ma tente, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. » 2 Pé 1, 13, 14. Pierre savait qu'il devait bientôt quitter cette tente, mais tant qu'il y était, il stimulait les saints à leur devoir dans la sainteté, afin qu'ils s'en souvinssent après son décès. Paul dit, « Le premier homme est de la terre, terrestre, notez terrestre 1 Cor 15-47, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, notez du céleste verset 49. » Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, etc. 2 Cor 4, 7. Et je vise, dit-il, non plus moi, mais Christ vit en moi. Galates 2, 20, lui qui est la vie de tout le peuple de Dieu. Christ dit aux Juifs, que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a montré au buisson, lorsqu'il appela le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, car il n'est pas le Dieu des morts mais des vivants car tous vivent pour lui. Luc 20, 37, 38. Ainsi, nul ne vit pour soi-même, et nul ne meurt pour soi-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur, car c'est pour cela que Christ est mort et qu'il est ressuscité, afin d'être le Seigneur des morts et des vivants. Rome 14, 7, 9. Car tous sont morts en Adam, et Christ, par la grâce de Dieu, a goûté la mort pour tout homme, afin qu'il sorte de la mort en Adam pour la vie éternelle en Jésus-Christ, qui est aussi un esprit vivifiant, car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Ainsi Christ, qui est mort et ressuscité, est Seigneur des vivants et des morts, car les vivants vivent pour le Seigneur et meurent en lui et sont bien heureux. Toute la chrétienté dit qu'elle croit en Dieu et en Christ, qu'elle croit Moïse et les prophètes, et qu'elle prêche Christ, Moïse et les prophètes, ainsi leurs paroles et leurs écrits sont prêchés et imprimés, et vous dites que vous y croyez. Mais quelle vie menez-vous? Êtes-vous par la loi morts à la loi, afin de vivre pour Dieu? Êtes-vous crucifié avec Christ? Christ vit-il en vous? La vie que vous vivez maintenant dans la chair, la vivez-vous par la foi au Fils de Dieu? Et ce n'est plus vous qui vivez, mais Christ qui vit en vous, lui qui s'est donné pour vous, est-ce là votre vie présente? Car le juste vivra par la foi, dont Christ est l'auteur et le consommateur, et par cette foi sainte, divine et précieuse, il remporte la victoire sur ce qui est vil, impie et non divin, et par cette foi ils plaisent à Dieu, ont accès à Dieu et à son Fils, qui accomplit la loi et les prophètes. Car la loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean, et depuis lors, le royaume de Dieu est prêché, et les hommes s'efforcent d'y entrer, et le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean, quoique Jean fût le plus grand des prophètes nés d'une femme. Voyez si vous êtes, ou non, dans le royaume qui consiste en paix, justice et joie dans le Saint-Esprit. Christ, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, était avant toute créature, car par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, soit trône, soit domination, soit principauté, soit puissance. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui, et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui, et il est la tête du corps, l'Église, et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Et ici vous pouvez voir que toutes choses ont été faites par Christ Jésus, et que toutes choses ont été créées pour Christ Jésus, et qu'en lui toutes choses subsistent et ont leur être, lui qui est le premier-né d'entre les morts, et qui ne meurt plus. Il a plu au Père que toute plénitude habitât en lui, et que, par Christ, il réconcilia toutes choses avec lui-même, soit les choses dans les cieux, soit les choses sur la terre. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, lui qui est la tête de toute principauté et de toute puissance, car tout pouvoir dans le ciel et sur la terre lui a été donné, le premier-né de toute créature et le premier-né d'entre les morts, qui vit à jamais dans sa puissance sur tout, l'agneau immolé dès la fondation du monde. Tant que l'esprit du monde règne dans le cœur des hommes, ils ne connaissent ni Christ, ni le commencement ni la fin de l'œuvre de Dieu. Christ fut extérieurement crucifié et mis à mort hors des portes de Jérusalem par les Juifs désobéissants, et ceux qui haïssent la lumière de Christ, désobéissent à son évangile, étouffent son esprit, et s'égarent de sa foi, crucifient pour eux-mêmes de nouveau Christ. Ainsi Adam et Ève, et leurs enfants qui désobéirent à Dieu, tuèrent l'agneau, les Juifs aveugles qui désobéirent à Dieu, crucifièrent Christ Jésus, et les chrétiens extérieurs, qui ne vivent ni ne marchent en Christ, mais vivent dans le péché et le mal, bien qu'ils fassent une profession extérieure de Christ, crucifient pour eux-mêmes de nouveau Christ. Quant à Christ lui-même, il est monté bien au-dessus de toute principauté, trône, puissance et domination, de sorte qu'ils ne peuvent plus le mettre à mort, ni le crucifier quant à lui-même. Mais ce que font aujourd'hui sur la terre les tueurs, les crucificateurs et les persécuteurs, c'est contre Christ en eux-mêmes et dans ses membres, comme Christ dit à Saul, « Pourquoi me persécutes-tu ? » Actes 9, 4. Car ce qui est fait à ses membres, Christ le tient pour fait à lui-même. Matt 25, 40 et Matt 25, 45. Et ceux qui ne visitèrent pas Christ, mais le persécutèrent dans ses membres, persécutèrent d'abord Christ en eux-mêmes. Le serpent, cet ennemi de l'homme et de la femme, le destructeur, le dieu de ce monde et le prince de l'air, qui règne dans le cœur des désobéissants, est entré par la désobéissance. Mais Christ lui écrase la tête, brise sa puissance en morceaux et détruit le diable et ses œuvres, et par la mort détruit la mort, et le diable, la puissance de la mort. Ainsi Christ, la lumière et la vie, a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il ouvre les portes des prisons et les yeux des aveugles, et il emmène captif celui qui avait emmené en captivité, et il fait des dons aux hommes. Ainsi Christ lie l'homme fort du péché, pille ses biens et le chasse, alléluia. Car l'homme fort du péché est le Dieu de ce monde, et sa maison, c'est le monde entier qui gît dans la méchanceté. Et ce Dieu de ce monde a gardé sa maison, et ses biens ont été dans la paix du monde, jusqu'à ce qu'un plus fort que lui vienne, le lie et le chasse, puis le détruise, lui et ses biens. Ainsi Christ, le Fils de Dieu, qui est plus fort que le diable, ayant détruit le diable et ses œuvres, établit sa propre maison. Tous les croyants dans la lumière sont des enfants de la lumière, appartiennent à la maison spirituelle du Fils de Dieu, et le Fils de Dieu est sur sa maison à jamais, gloire à Dieu au plus haut des cieux, par Jésus-Christ. Amen. Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes au sujet de Jésus-Christ, son Fils le Saint, c'était donc des hommes saints, et non impies, par lesquels Dieu a parlé. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ doivent se détourner de l'iniquité. George Fox Kingston upon Thames, le 11 mois, 1687. Je revins à Londres vers la fin du 11e mois 1687, visitant en chemin les amis à Chiswick et à Hammersmith, où je tins deux réunions, l'une un jour de fête et l'autre à l'occasion d'un mariage, auxquelles assistaient beaucoup de gens d'autres dénominations, parmi lesquels j'eus une très opportune occasion d'ouvrir la voie de la vérité. Quand j'arrivai à Londres, je visitai les réunions dans et autour de la ville, comme le Seigneur me conduisait, dans le service duquel je continuai de travailler jusqu'au milieu du premier mois 1687-8. À ce moment-là, je me dirigeai vers Enfield et visitai les amis là et aux environs, puis à Barnet, Walsamabay et en d'autres lieux, où je tins de nombreuses réunions et rendis un très bon service, ce qui m'occupa plusieurs semaines. Je revins ensuite à Londres, où je continuai de travailler dans l'œuvre de l'Évangile jusqu'après l'Assemblée annuelle, qui cette année-là se tint vers le début du quatrième mois. Ce fut une réunion précieuse. Les amis eurent ensemble un temps très rafraîchissant, le Seigneur honorant nos assemblées de sa présence vivante et glorieuse d'une manière très abondante. À la conclusion de la réunion, je sentis sur mon esprit une préoccupation de publier le texte suivant, afin qu'il fût répandu parmi les amis. « Vous tous, croyant dans la lumière, qui êtes devenus enfants de la lumière, marchez comme des enfants de la lumière et du jour de Christ, comme une ville située sur une colline qui ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi, afin que les gens voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Car un bon arbre porte de bons fruits, soyez donc des arbres de justice, la plantation du Seigneur, portant des fruits de sainteté, et alors votre fin sera la vie éternelle. Tels sont les puits et les citernes qui retiennent l'eau vive qui jaillit en eux jusqu'à la vie éternelle. Vous pouvez tous boire de l'eau de vos propres citernes, de l'eau courante de vos propres puits, et chacun manger de son propre figuier et de sa propre vigne, ayant tous du sel en vous-même, pour assaisonner le sacrifice de chacun, acceptable à Dieu par Jésus-Christ. De même, vierges qui avez de l'huile dans vos lampes, suivez l'agneau et entrez avec l'époux. Maintenant est le temps de travailler, tant qu'il fait jour, oui, le jour de Christ, pour réveiller l'esprit pur de chacun, le don de Dieu qui est en eux, et pour faire fructifier vos talents, que Christ vous a accordés, afin que vous en tiriez profit, et pour marcher chacun selon la mesure que Christ vous a donnée, car la manifestation de l'Esprit de Dieu est donnée à chacun pour l'utilité. Considérez quel profit vous avez retiré dans les choses spirituelles et célestes par l'Esprit céleste de Dieu. Ne soyez pas comme le méchant et paresseux, qui cacha son talent, et à qui il fut ôté, et qui fut jeté dans les ténèbres du dehors. Un nain ou celui qui avait quelques défauts ne devait pas s'approcher pour offrir sur l'autel de Dieu. Ayez donc égard à la parole de sagesse, afin qu'elle vous garde ce qui vous corrompra et vous marquera d'un défaut, et afin que vous croissiez en grâce, en foi et en connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'en vous nourrissant du lait de la parole, vous croissiez par lui, afin de ne pas être des nains, et qu'ainsi vous offriez votre sacrifice spirituel sur le saint autel de Dieu. Car le champ ou la vigne du paresseux se couvre d'épines et d'orties, et ses murs s'écroulent. Tels sont ceux qui ne sont pas diligents dans l'Esprit de Dieu et dans la puissance, qui est le mur, une clôture sûre. L'Esprit de Dieu arrachera toutes les épines, les chardons et les orties de la vigne du cœur. Et vous qui gardez les vignes d'autrui, veillez à garder vos propres vignes propres par l'Esprit et la puissance de Christ. Sanctifiez-vous, et sanctifiez le Seigneur dans votre cœur, afin d'être un peuple saint pour le Seigneur, qui a dit « Soyez saints, car je suis saint », afin d'être les membres saints de l'Église de Christ, qui est revêtue du soleil et à la lune sous ses pieds, le monde changeant, avec tous ses cultes changeants, ses religions, ses églises et ses docteurs. Soyez des enfants de la nouvelle Jérusalem céleste, car la nouvelle Jérusalem céleste qui est d'en haut est la mère de tous les enfants de la lumière qui sont nés de l'Esprit. Ce sont ceux qui ont été persécutés et ont souffert par la fausse Église, Mystère Babylone, la mère des prostituées. Et maintenant, vous tous, enfants de la Jérusalem céleste et de Sion, qui êtes d'en haut, travaillez dans l'Évangile, la puissance de Dieu, la semence en laquelle toutes les nations et toutes les familles de la terre sont bénies. Semence Christ qui écrase la tête du serpent, détruit le diable et ses œuvres, et triomphe de la prostituée, la fausse église, de la bête et du faux prophète. Il ôte la malédiction, ainsi que le voile étendu sur toutes les nations et sur toutes les familles de la terre, et fait venir la bénédiction sur tous, s'ils veulent la recevoir, disant, « En ta semence seront bénies toutes les nations et toutes les familles de la terre. » C'est là l'évangile de Dieu prêché à Abraham, avant que Moïse n'écrive ses cinq livres, il fut prêché au jour des apôtres, et il est maintenant prêché de nouveau, il met en lumière la vie et l'immortalité, et il est l'évangile de paix, de vie et de salut pour quiconque y croit. Ainsi toutes les nations, toutes les familles de la terre doivent être en Christ, la semence, si elles doivent être bénies et participer à la bénédiction dans la semence. Cet évangile fut révélé par Christ à ses apôtres, qui le prêchèrent, il n'est pas de l'homme ni par l'homme. Maintenant Dieu et Christ m'ont révélé le même évangile, à moi et à beaucoup d'autres en cette époque. Je parle de l'évangile et de la semence en laquelle toutes les nations et toutes les familles de la terre sont bénies. Dans cet évangile j'ai travaillé, et je travaille, afin que tous viennent dans cette semence bénie, Christ, qui écrase la tête du serpent, pour qu'en elle il ait la paix avec Dieu. Cet évangile éternel est de nouveau prêché à ceux qui habitent sur la terre, et ceux qui y croient, et en reçoivent la bénédiction, la paix, la joie et la consolation, la stabilité en lui, et la vie et l'immortalité qu'il met en lumière en eux et pour eux. Cela peuvent louer le Dieu éternel dans son évangile éternel. Et amis, recherchez tous la paix et le bien de tous en Christ, car la vérité ne fait ni Caïn, ni Corée, ni Balaam, ni Judas, car ils deviennent tels en sortant de la vérité paisible. Marchez donc dans la vérité paisible, et dites la vérité dans l'amour de la vérité, comme elle est en Jésus. George Fox Back Next.